Radio Prague, les informations.
Le vice-premier ministre Jiří Čunek annonce sa prochaine démission. Le Sénat a soutenu le projet du nouveau traité simplifié européen. 8 ans de prison pour le procureur communiste Ludmila Borjová-Polednová. Le vice-premier ministre Jiří Čunek a annoncé sa prochaine démission qu'il présentera mercredi prochain. Il a pris cette décision en réaction à la publication de l'information selon laquelle la procureure de la République, Renata Vesecká, rouvrira l'affaire de corruption le concernant. La veille, Jiří Čunek a rejeté devant les caméras de télévision les soupçons qui pèsent sur lui en ce qui concerne un éventuel abus du régime des allocations sociales. Le groupe chrétien-démocrate du Sénat, appelé Jiří Čunek, a démissionné non seulement de ses fonctions de vice-premier ministre, mais aussi de celles de chef du parti chrétien-démocrate et de sénateur. Le Sénat tchèque a soutenu le projet du nouveau traité simplifié adopté par les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Lisbonne. On suppose que ce sera le Sénat qui adoptera le traité après sa signature officielle qui est prévue pour le 13 décembre prochain. 8 ans de prison, tel est le verdict prononcé par le tribunal de Prague sur Ludmila Borjová-Polednová, l'un des anciens procureurs du procès de Milada Horáková, condamné en 1950 à la peine capitale. Le tribunal a trouvé l'ancien procureur coupable d'avoir participé à l'accusation de Milada Horáková et d'avoir procédé en contradiction avec les lois alors en vigueur. Ensemble contre le néonazisme, sous ce slogan, 3 rassemblements différents organisés par la communauté juive de Prague, l'Union libérale juive et l'association Tolérance auront lieu le 10 novembre dans le quartier juif de Prague pour empêcher les extrémistes de droite de défiler à travers ce quartier. L'association Les Jeunes Démocrates Nationaux a choisi le 10 novembre, jour anniversaire de la nuit de cristal, pour organiser des manifestations de protestation contre la participation tchèque à l'occupation de l'Irak. La mairie les a interdits. Les extrémistes insistent pour autant sur leur action. Ils ont porté plainte contre la mairie. Dès ce jeudi, les Tchèques n'ont plus besoin de visa pour se rendre au Canada. C'est effectivement le 1er novembre qu'entre en vigueur la disposition canadienne stipulant l'abolition du visa pour les citoyens tchèques dont le séjour dans ce pays ne dépassera pas 90 jours. Jeudi soir, le jeune chef d'orchestre tchèque Tomáš Netopil se produit pour la première fois avec la Philharmonie tchèque. Jusqu'au 3 novembre, il remplacera Zdeněk Marcal. Tomáš Netopil, 32 ans, dont la carrière professionnelle a commencé il y a 6 ans, se produit souvent avec des orchestres étrangers à Londres, à Stockholm et ailleurs. Au programme de son concert de ce jeudi soir, de symphonie d'Antonín Dvořák et de Jan Sibelius, ainsi que de chant de Vítězslav Novák. Météo avant de terminer, un ciel nuageux et des températures situées autour de 10 degrés sont prévues pour vendredi, jour de fête de commémoration des défunts en République tchèque. C'étaient les informations présentées par Jarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Merci à Jarka pour ce bulletin d'information et continuons dans l'actualité avec pour commencer l'annonce de la démission du vice-premier ministre Jiří Čunek. Ensuite, Alena Gebertová vous présentera les réactions à l'abolition des visas pour les ressortissants tchèques voulant se rendre au Canada. Anna Kubišta vous présentera un auteur français présent au Festival de la bande dessinée qui se tient à Prague. Et Václav Richter dressera pour vous le portrait de l'écrivaine Jarmila Lokotková, très liée à la France qui vient de disparaître. Nous vous souhaitons une parfaite réception et des moments agréables en notre compagnie. L'affaire du vice-premier ministre Jiří Čunek, qui aurait abusé du régime des allocations sociales, semble en partie consommée. En effet, il vient d'annoncer sa démission. L'ancien maire de Cetinje, qui avait commencé à faire parler de lui dans une affaire de déménagement forcé de Rome, n'a pu résister à la pression qui pesait sur lui. Tout d'abord, il a été soupçonné de corruption quand il dirigeait encore le conseil municipal de Cetinje. Une autre affaire est apparue, révélée il y a quelques jours par la télévision tchèque. Il aurait perçu des allocations sociales vers la fin des années 1990, alors qu'il possédait plus de 3,5 millions de couronnes sur plusieurs comptes en banque. En plus de cela, les placements sur ces comptes auraient été effectués d'une manière un peu étrange. Jiříčůnek a tout d'abord nié avoir perçu des allocations sociales, avant de l'admettre ensuite, et n'a pas su expliquer, clairement, la provenance des placements sur ses comptes en banque. Face aux fortes critiques des partis de la coalition gouvernementale, dont celle du Parti chrétien démocrate, dont il est le président, et confronté aux mises en garde et aux appels à fournir des explications du Premier ministre Mirek Topolánek et aux préoccupations formulées par le président de la République, Jiříčůnek a cédé. Une décision prise après la publication d'une information selon laquelle la procureure de la République, Renata Vesecká, comptait reprendre l'enquête sur sa corruption supposée. À la suite d'une réunion des chefs des partis de la coalition gouvernementale, Jiříčůnek a déclaré lors d'une conférence de presse extraordinaire ce jeudi, en présence du chef du gouvernement Mirek Topolánek, Parti civique démocrate, et du vice-premier ministre Martin Bursík, Parti des Verts.
J'ai décidé, afin de mettre un terme à toutes les discussions sur mes tentatives d'influencer Renata Vesecká, avec laquelle je n'ai jamais parlé, en dehors d'un débat télévisé, j'ai donc décidé, pour que cette enquête soit pour l'opinion publique et pour tous impartiale, de présenter ma démission lors de la réunion du gouvernement de mercredi prochain.
Jiříčůnek démissionne donc de ses fonctions de vice-premier ministre et de ministre de l'aménagement territorial et affirme qu'il est pour la continuation de la coalition gouvernementale actuelle. Cela suffira-t-il à calmer les esprits? Peut-être, mais il devra encore s'expliquer devant la direction de son parti où son poste de président pourrait être contesté. Personnellement, il affirme qu'il n'a pas violé la loi ou les règles de l'éthique. L'enquête en décidera. Une bonne nouvelle pour les citoyens tchèques désireux de se rendre au Canada. Dès ce jeudi 1er novembre, ils n'ont plus besoin de visa. Cette décision tombe 10 ans après la réintroduction par le Canada d'un régime de visa pour la République tchèque. Alena Gebertová pour plus de détails.
En renouvelant en 1997 l'obligation de visa pour les citoyens tchèques, le Canada avait répondu à l'arrivée en masse dans le pays de demandeurs d'asile de République tchèque, pour la plupart des Roms. Les chiffres sont clairs. Entre 1996 et 2000, 1677 citoyens tchèques ont demandé l'asile au Canada, dont 962 l'ont obtenu. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, se félicite du changement survenu.
Cette décision couronne les efforts de longues années de la diplomatie tchèque. La République tchèque et le Canada souhaitent que la situation d'il y a 10 ans, où beaucoup ont abusé du régime sans visa, ne se répète plus. Il est sûr que le Canada va suivre très attentivement la situation pour prévenir un nouvel abus de ce régime.
L'obligation de visa est uniquement supprimée pour les séjours ne dépassant pas 3 mois. Elle subsiste pour des séjours plus longs. Selon les données fournies par le ministère canadien des Affaires étrangères, en 2006, près de 300 citoyens tchèques se sont vus octroyer un visa de court séjour. Rappelons que les citoyens canadiens, quant à eux, tout comme ceux des États-Unis, pouvaient et peuvent se rendre en République tchèque sans visa. Karel Schwarzenberg.
Je suis très heureux qu'au moins une importante partie de l'Amérique du Nord se soit décidée à mettre sur pied un régime sans visa. J'espère que le processus dirigé vers l'instauration d'un régime similaire avancera également aux États-Unis.
Outre la République tchèque, c'est aussi la Lettonie qui est désormais concernée par l'abolition de l'obligation de visa pour le Canada.
Les temps changent pour la bande dessinée en République tchèque. Depuis quelques années, des auteurs de BD tchèques commencent à se faire un nom et des auteurs issus de grands pays de la BD, comme la France, sont publiés en Tchéquie, notamment par la maison d'édition franco-tchèque Mo. C'est elle qui fait paraître, ces jours-ci, le dernier tome de « L'ascension du haut mal », une histoire autobiographique du dessinateur David B. Il est à Prague, dans le cadre du Comics Fest, qui se tient jusqu'au 3 novembre. On l'écoute au micro d'Anna Kubishta.
J'ai toujours dessiné, j'ai toujours été un grand dessinateur, enfin un grand dessinateur, je m'entends, hein. C'est-à-dire que je dessinais beaucoup, et un grand raconteur d'histoires surtout. J'ai toujours adoré raconter des histoires. Quand j'étais petit, j'inventais tout le temps des trucs extraordinaires. Et pour moi, adorant dessiner et adorant les histoires, la bande dessinée, c'était vraiment le mode d'expression pour moi.
À la maison d'édition Mott, Mot est sorti donc l'Ascension du Haut Mal. Alors première question déjà pour ceux qui ne savent pas forcément, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le Haut Mal ?
Le Haut Mal en français, c'est l'ancien nom médiéval de l'épilepsie. C'est-à-dire qu'on appelait ça Haut Mal parce que c'était considéré comme une maladie un peu sacrée. C'était une maladie qui venait du ciel, qui venait de Dieu. Donc c'était le Haut Mal ou le Grand Mal. Donc mon frère a été touché par cette maladie à l'âge de 7 ans, très gravement. Et ça a complètement bouleversé la vie de notre famille, et c'est ce que je raconte dans l'Ascension du Haut Mal.
C'est pas la première fois que vous venez en République tchèque, donc vous avez une BD, dont vous allez me rappeler le titre tout à l'heure, qui parle des Hussites. Alors vous avez quand même un rapport particulier, disons, à la Tchéquie.
Ah oui, tout à fait. J'ai toujours aimé Prague de loin et aimé la Tchéquie de loin, parce que, étant passionné d'histoire et de littérature fantastique, j'avais découvert un livre d'un auteur américain qui s'appelle Norman Cohn, qui s'appelle Les fanatiques de l'Apocalypse, où il racontait l'histoire des hérésies, et notamment il y avait celle qui m'avait frappé, c'était cette histoire des Hussites, des Taborites, des Adamites, de Jan Šiška et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours renseigné, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver en français là-dessus. Et justement, j'ai fait une histoire qui s'appelle Le Jardin armé et sa suite, le Tambour amoureux, qui va sans doute paraître chez Mo, qui est une histoire, une sorte de fantaisie, disons, autour de cette histoire des Taborites et des Adamites. Pour moi, je m'intéressais à ces périodes-là parce que c'est un peu comme des sortes de convulsions du monde. C'est des moments de révolte hérétique. Ce qui m'intéresse, c'est cette remise en cause de l'ordre du monde par des gens qui cherchent autre chose, qui cherchent justement un ordre différent. Et j'aime bien ce côté utopique m'intéresse. Ce côté profondément humain que souvent ces utopies s'effondrent. Ne donne pas de résultats. Il y a évidemment un rapport avec mon travail autobiographique, enfin, évidemment avec la maladie de mon frère, avec ces choses-là, et c'est un peu comme des épilepsies du monde pour moi, des crises d'épilepsie du monde.
Le livre ne doit jamais ennuyer, même si ses qualités sont les plus excellentes, disait Jarmila Lokotkova. Elle a réussi à attirer dans le labyrinthe de l'histoire d'innombrables lecteurs, qui sans elle ne s'y serait jamais hasardé. Douée d'un grand talent de narration suggestive, elle a su redonner vie à des personnages et des faits historiques. Ce lundi, elle est entrée elle aussi dans l'histoire. Václav Richter.
La lecture des romans de Jarmila Lokotkova est une aventure passionnante qui tient le lecteur en haleine et le plonge dans un autre temps et dans un autre monde. Elle a été attirée par la littérature dès le moment où elle a appris à écrire. Lycéenne, elle écrit des romans dans le style de la Bibliothèque Rose qu'elle brûlera après le baccalauréat. Beaucoup plus tard, dans un entretien à la radio, elle évoquera le début de sa carrière littéraire.
Mon premier livre est paru très tôt. C'était en 1940, je n'avais que 17 ans, et c'était un recueil de contes sur des sujets de l'Antiquité. J'ai été attirée par l'Antiquité, probablement entre autres par une tare héréditaire, c'est-à-dire les visites chez mon grand-oncle. Mon grand-oncle, qui s'appelait František Loukotka, a écrit toute une série de manuels de latin et de grec, et c'était notre dernier poète de langue latine.
Les principales sources d'inspiration de Jarmila Lokotkova sont l'Antiquité et la France médiévale. Sa plume fait surgir de l'abîme des temps la Rome impériale, Carthage, la guerre punique et rappelle à la vie Néron, Pétron, Spartacus et nombreux autres personnages historiques. Mais c'est le roman Le poète chante quand même, évoquant de façon magistrale la vie de François Villon sur fond du Moyen-Âge français, qui lui vaut l'admiration de ses lecteurs et lui apporte son plus grand succès littéraire. Elle ajoute à cette grande fresque haute en couleur ses propres traductions des vers du poète maudit, dont elle ne sera jamais tout à fait satisfaite et qu'elle n'arrivera pas à considérer comme définitive. Elle ne travaille pas facilement. Pour chaque œuvre, elle réunit et étudie de nombreux documents, et pourtant elle finira par écrire une vingtaine de grands romans, ainsi qu'un certain nombre d'œuvres mineures, dont des récits psychologiques contemporains, et même des romans avec une intrigue policière. Elle ne parle que très rarement de sa vie privée. On retiendra pourtant cette phrase d'elle qui pourrait être considérée comme le bilan d'un échec. Mes amours sont une galerie d'individus bizarres, un musée de canailles et de toquets, et souvent des deux à la fois. Dans ses romans historiques, Yarmila Lokotkova a fréquemment évoqué des situations terribles et cruelles. Elle disait pourtant « Ce n'est encore rien comparé à ce qui se passe à l'époque actuelle ». C'est donc à l'âge de 84 ans qu'elle a quitté notre monde et notre époque, à laquelle elle aurait préféré sans doute le 15e siècle de François Villon.
Refermons le magazine d'actualité maintenant sur Radio Prague pour laisser la place aux personnalités tchèques et leur habituelle rubrique.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Le jockey tchèque légendaire Miroslav Šusta, né le 18 août 1927, a été à deux reprises champion du derby tchécoslovaque en 1960 sur Ceylon et en 1971 sur Hvězdar. Il a entre autres remporté les premiers prix aux meetings internationaux en Hongrie, Pologne, en RDA et à Velká Huchle en République tchèque. Il faut ajouter que 250 victoires en course plate et 95 victoires en steeplechase s'ajoutent à son palmarès. En 1970, il a été nommé champion des jockeys de course plate. Miroslav Šusta était très proche des chevaux depuis son enfance. Son père faisait du commerce de bétail et son fils l'accompagnait souvent au marché. Miroslav montait chez les fermiers qui l'aidaient à labourer ou chez les bouchers qui l'aidaient également, mais à transporter les veaux. Puis à 16 ans, tout comme son aîné Karel Havelka, il a trouvé dans le journal une annonce de l'entraîneur renommé Jaroslav Rosák qui cherchait un jeune homme d'un poids de 37 kg pour une formation de jockey. Le jeune homme passionné de chevaux a tout de suite réagi. Mais à l'époque, à Velká Huchle, il n'y avait pas de lycée équestre et de formation professionnelle comme aujourd'hui. Le style était tout à fait différent.
J'ai commencé ma formation le 1er juin 1943 chez le célèbre entraîneur de jockey de chevaux de course Jaroslav Rosák. C'est grâce à l'excellent jockey M. Merta, employé chez mon entraîneur, que j'ai acquis les premières expériences hippiques des deux courses. Les 5 années de formation étaient très dures. Tous les matins, il fallait monter les chevaux, malgré les intempéries, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Et l'après-midi, tout recommençait. Pour le petit déjeuner, on nous donnait de l'ersatz de café et du pain sec. Pour les déjeuners et dîners, on faisait un trajet de 2 kilomètres jusqu'au logement de l'entraîneur. Mais là, à part manger, il fallait à nouveau travailler. Couper et scier du bois, balayer la cour, cirer les bottes de l'entraîneur. Les congés, je ne pouvais qu'en rêver. Parfois, il arrivait que je sois libre le vendredi après-midi, mais c'était plutôt une exception. Puis j'ai fait la connaissance de ma future épouse. Après 2 ans de service militaire, je me suis marié en 1951 et la vie de famille a commencé.
L'épouse de Miroslav Šusta, Františka, décédée il y a 20 ans, était pour lui la femme de sa vie. Celle dont il garde toujours un tendre souvenir a donné à Miroslav 2 fils.
Yeah. Miroslav Šuste a gagné sa première course à dos de la jument Bobina, qu'il a beaucoup aimée. Lorsqu'il en parle, le jockey, un sourire rêveur aux lèvres, prononce le nom de la jument avec tendresse. Ah, Bobina, quelle exquise jument! Puis en 1949, l'année de son mariage, il court au meeting international en Pologne. Miroslav Šuste aime bien évoquer la course sur 4000 mètres en Pologne, c'était en 1953, sur l'étalon Moravan. Lorsqu'à la dernière ligne, il réalisa qu'il était le dernier des derniers, il se fâcha et pressa son cheval. Il dépassa quelques jockeys, mais il se rendait bien compte que c'était insuffisant. Alors Miroslav donna à Moravan deux coups de cravache et Moravan dépassa tout le monde, y compris le grand favori Karel Havelka. Écoutons encore une fois Miroslav Šuste pour nous dire quelles doivent être les capacités d'un futur jockey et pour qu'il exprime son opinion sur les jockeys actuels en République tchèque.
Celui qui veut faire une carrière de jockey doit avoir premièrement du talent, envie de passer les concours, avoir un poids adéquat, être en bonne santé et très en forme. Mais il faut aussi qu'il suive les conseils des jockeys plus âgés et plus expérimentés. L'entraînement des chevaux à la course est également très difficile. Le jockey doit savoir quel type de cheval il monte, car c'est ainsi qu'il peut bien gérer le travail avec sa monture et préparer le cheval aux courses. En ce qui concerne les jockeys actuels de mon pays, j'ai tout de même quelques remarques à faire. À titre d'illustration, après la course, les jockeys galopent encore 800 mètres avant d'arrêter le cheval. Puis après, ils font demi-tour. Le cheval fait donc 1800 mètres en plus et n'est guère ménagé. Sinon, pour ce qui est des nouveaux talents, j'estime que ce sont deux ex-élèves du lycée équestre et de formation professionnelle à Velká Kuchle, Iva Miličková et Václav Janáček.
Miroslav Šuste, qui porte bien ses 80 ans, n'a jamais vraiment fait de régime. Il aime bien manger et avec plaisir un rôti de porc avec de la choucroute et des boulettes de pâte bouillie, appelées les knedliki, le tout accompagné d'une petite bière. Et on peut fréquemment le rencontrer à Velká Kuchle à vélo.
Těšila, k muzice si věrto klišila, ale místo tancování doma seděla. Celý týden, že se těšila, k muzice si věrto klišila, ale místo tancování doma seděla.
Avant de nous quitter avec de la musique folklorique, nous attirons l'attention de nos auditeurs d'Afrique, surtout sur l'annonce suivante. Du 1er novembre au 31 décembre 2007, Radio Prague diffuse à destination de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest de 11h à 11h27, temps universel, sur la fréquence de 17 515 kHz, donc 16 mètres, je répète, 17 515 kHz. Si vous captez cette émission diffusée par le relais de l'île de l'Ascension, nous vous remercions de nous en informer. Rendez-vous donc à l'écoute d'une prochaine émission sur les ondes ou le site web de Radio Prague.
samíkem. Skřipa zpívá nad krajinou, že je hezký svět. Tvoje oči jsou modré jako měnky v naší zahrádce. Hezký je život na zemi, stojí za to žít přece. Zpívej s námi tu písničku, co máš rád. Tleskej s námi, mladí jsme jen jedenkrát. Zpívej s námi, jaro už přišlo k nám.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kilohertz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kilohertz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kilohertz, and at 1700 hours on 15710 kilohertz, and at 2230 hours on 9435 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kilohertz, or at 2230 hours on 9435 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz, and at 0430 hours on 9890 kilohertz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kilohertz, at 1400 hours on 11600 kilohertz, and at 2100 hours on 9430 kilohertz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kilohertz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.